Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Première partie, Thérèse. C'était au mois de novembre. Les formes se confondaient entre elles, dans la lumière tamisée d'une saison pluvieuse. Leurs contours bavaient comme l'encre sur un papier mouillé, ne laissant à la vue de Thérèse qu'une faible différence pour discerner le jour de la nuit. Une maladie congénitale, dégénérative, affectait ses yeux, ne lui permettant de voir que des ombres encrassées, qu'une obscurité dévorante consumait jusqu'à la moindre silhouette. Ses premiers souvenirs remontent à cet automne-là. Les coups de vent cinglaient son visage des multiples gouttes d'une bruine tenace et glacée. Elle marchait dehors, le long du mur de la maison. Du bout des doigts, elle frôlait ses arêtes, ses brusques reliefs en saillie, ses aspérités rugueuses. Et puis elle s'assit par terre, appuyant son dos contre la pierre froide, les jambes que ses bras ceinturaient repliées contre elle, la tête penchée jusqu'à toucher ses genoux. Sa sœur venait de reprendre l'école, la laissant seule, désemparée et triste. Isolée plus encore de cet univers sans affection ni pitié. Était-ce ça, la vie? Un pendule qui oscille entre faim et détresse? Le chagrin cramponné à vos basques qui jamais ne vous quitte? Et ce mur de nuit qui s'approche des yeux? Elle se souvient que son cœur ne faisait pas que battre au milieu de sa poitrine. Il faisait mal aussi. Une étreinte le broyait jusqu'à ne plus laisser d'espace à l'espoir. Assise au pied de ce mur, seule, sa sœur ayant rejoint l'école, elle était malheureuse. Oh non, pas malheureuse. Non, malheureuse signifie qu'on est heureux, mais pas comme il faut. Du bonheur, elle ne connaissait rien. Et son chagrin débordait dans un torrent de larmes qui, mêlé à la pluie, trempait son visage. Puis un bruit de pas vint marteler le silence qui la séparait du monde. À chaque foulée, la semelle qui grince, le talon qui claque le pavé. Cette démarche décidée, elle en reconnaît le bruit. Il provient des sandales que les dominicains portent aux pieds. En traversant la route, le religieux se dirige vers elle. Il s'arrête à portée de bras. Elle entend le froissement du vêtement de quelqu'un qui se penche. Puis, levant sa tête, elle sent la paume d'une main se poser d'un geste délicat sur sa joue. Sans un mot, ses yeux fermés, son visage tourné vers cet inconnu dont la main immobilise le temps. Et de nouveau un froissement de linge, le bruit des sandales qui s'éloignent. L'oreille tendue, elle ne perçoit plus que le retour du silence. La caresse était chaude et son cœur brûlait. « Il y a au moins quelqu'un qui m'aime, » se dit-elle. Accoudée à l'appui de sa fenêtre, le menton posé sur la paume des mains, elle respirait l'air frais. À la voir comme ça, le nez dans les nuages, on la dirait contemplative, admirant de loin le vol lourd d'un corbeau dont le cri spectral transperce le ciel. Mais elle n'a jamais vu de visage. Ni les milliers de flocons blancs et la flaque d'eau gelée, ni le teint de velours d'un pétale de rose, ni l'aube et ses filaments d'or qui tissent la toile vernissée d'un ciel de traîne. De cette campagne embrumée, elle ne perçoit que des masses informes diffuses. Elle ne voit qu'un jeu d'ombre sur l'écran trouble et tamisé d'une lumière pâle. Le soleil se répand comme une tache laiteuse dans le clair-obscur d'un ciel gris. Avec sa sœur, elles occupaient une chambre dans un coin de cette ferme, où l'assistance publique les avait placées. C'est à la fenêtre de cette pièce qu'elle a posé son visage au creux des mains et qu'elle respire l'odeur des terres humides. Le parquet grinçait parfois. Un plancher terne, comme celui d'un grenier, ni neuf ni vieux, juste usé par endroits. Deux lits contre un mur, puis une armoire normande trop haute et massive, trop volumineuse pour les quelques vêtements des deux sœurs. Leur aire de jeu s'étendait sans limite dans cette vaste campagne qui entourait la maison. Un patchwork de champs cultivés que bordent des bois et quelques marigots. Son déjeuner tout juste avalé, Marie-France, l'aînée, fonçait dehors pour trouver dans les arbres d'incroyables cachettes. D'une agilité déconcertante, elle se glissait de branche en branche et grimpait jusqu'aux cimes. Perchée là-haut, elle s'asseyait sur une section de bois, jambes pendantes. Adossée au tronc, affranchie de toute tutelle, libre et presque heureuse, elle nichait au creux de ses rêves. L'exacte réplique du baron perché. Entourée par les chants d'oiseaux, elle se fondait dans ce paysage sylvestre que les feuilles protégeaient, pour n'en sortir que bien plus tard à l'heure du dîner. Quant à Thérèse, elle aimait courir, et seule la providentielle intuition d'un imminent danger arrêtait sa course au bord des marais. Personne ne la croyait aveugle, même sa nourrice n'y croyait pas, et pourtant, quand elle l'envoyait sarcler le potager entre les carottes et les mauvaises herbes, elle arrachait les carottes. Hier, à genoux sur le carrelage de la cuisine, une pelle à poussière dans la main, Thérèse avait ramassé les éclats d'un verre brisé. Prudente parce que parfois les morceaux lui piquaient le bout des doigts. Pendant que, debout derrière elle, sa nourrice furieuse, un balai à la main, la frappait. Elle en ressent encore, appuyée sur le bord de sa fenêtre, la cuisante douleur. Thérèse savait n'être pas née dans cette maison, pour n'y avoir jamais connu la chaleur d'un foyer, mais aussi parce que sa sœur lui avait parlé plusieurs fois de cette histoire de famine, de gendarmes et d'un voyage sans retour. Elle lui avait appris les circonstances de leur arrivée chez cette nourrice de l'assistance publique. Et parfois Thérèse entendait sa sœur sangloter en racontant cette histoire. Elle se précipitait alors dans ses bras, son oreille collée contre son cœur. Battements réguliers, puissants. Sans comprendre vraiment pourquoi ses larmes, sans comprendre que Marie-France pleurait son impuissance à dévier le cours d'un fleuve qui l'entraînait si loin de sa mère. La mémoire de Thérèse n'était pas encombrée des mêmes poids. Elle ne remontait pas au-delà de son existence ici, chez cette nourrice qui tenait lieu et place d'une famille qu'elle n'aurait jamais connue. En caressant les cheveux de Thérèse, lovés contre elle, sa sœur semblait lui dire de ne pas s'en faire. Parfois leur nourrice les surprenait ainsi, blottis l'une contre l'autre, ce qui la rendait furieuse. « Votre mère, c'est une vaurien, et vous serez pareil. » Hier, en ramassant ses petits bouts de verre, Thérèse a ressenti la morsure d'un sentiment glaçant, beaucoup plus douloureuse encore que les coups de balai, la froide certitude de n'être nulle part chez elle. Elle referma ce souvenir en même temps que la fenêtre, parce que l'air frais maintenant la faisait frissonner. La cloche avait sonné depuis un moment déjà. Il ne reste plus d'élèves dans la petite école du village. Des feuilles arrachées aux arbres virevoltent dans la cour, emportées dans la spirale d'un tourbillon d'air. Les murs gris encadrent des fenêtres où glisse le reflet des lourds nuages d'un ciel assombri. La directrice profite des quelques instants de cet appréciable silence. Elle revenait d'un troublant conseil de classe. Une maîtresse lui avait parlé d'une élève, ne distinguant aucune des lignes de son cahier. Le nez collé au tableau, elle ne voyait rien des traces de craie. La maîtresse l'avait placée au premier rang, regrettant de n'avoir pas d'autre solution pour l'aider, sinon d'écrire en gros caractères au tableau noir les lettres de l'alphabet. Douée d'une singulière mémoire, cet enfant apprenait ses leçons en écoutant les élèves les réciter. Une fillette brillante, malgré son handicap, mais souvent seule. Pensive devant sa fenêtre, la directrice d'école se remémore cette troublante description. Mais devant la menace d'une pluie imminente, elle se couvre d'un long manteau et quitte son bureau. En sortant, elle adresse un vague signe de la main au concierge qui ferme la grille derrière elle. L'image de l'élève malvoyante ne la quitte plus. Dotée de capacités hors du commun, une meilleure vue rendrait cet enfant capable de performance. Les bons élèves ne rehaussent-ils pas l'estime que l'académie porte à une école? Plus exactement à son directeur? L'opportunité était à saisir. Pour cette raison, l'idée de soutenir une exigence de soins auprès de l'assistance publique effleure la directrice. Sauf que défendre la cause d'une fille de la DAS n'était-ce pas le métier d'une assistante sociale? La DAS est la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, organisme d'État chargé, entre autres et jusqu'en 1982, de prendre en charge les orphelins et les enfants placés par mesure d'assistance éducative. Les DAS ont été supprimés en avril 2010. S'abaisser en public à ce rôle subalterne lui fit l'effet d'une grosse tache d'encre sur son curriculum vitae. Mauvaise idée qu'elle abandonne aussitôt. Pour éviter les premières gouttes de pluie, la directrice d'école accélère son pas. Pressée de retourner à sa confortable quiétude, sa paire de charentaises et le ronronnement du poêle à charbon.